Frédéric Rodel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gérant chez CCR Asset Management. On va parler avec vous du segment des mid-cap en Europe. Alors, si l'on se réfère à ce qui s'était passé en 2011, c'est peut-être la première année où ces mid-cap n'ont pas fait leur surperformance face aux grandes valeurs. Est-ce que votre environnement a changé en début d'année 2012?
En fait, c'est pas la première année. Il arrive ponctuellement que les grandes valeurs fassent mieux que les petites et les moyennes. Si je me trompe pas, c'est arrivé pour la zone euro et l'Europe en 2002, en 2007. Donc, vous voyez qu'il y a un lien assez évident avec les cycles économiques et qui est pas très étonnant dans la mesure où la constitution, enfin, qu'on compare en particulier les valeurs moyennes et grandes valeurs, il faut prendre en compte les pondérations sectorielles et beaucoup de secteurs cycliques sont très représentés dans les valeurs moyennes plus que dans les grandes. Dans les grandes, vous trouvez la pharmacie, vous trouvez le pétrole, enfin, qui est cyclique mais moins, vous trouvez les télécoms et dans les valeurs moyennes, vous trouverez beaucoup de fabricants de biens d'équipement, par exemple, de cimentiers. Et donc, c'est pas très étonnant, surtout que, bah, comme vous l'avez dit, ça succédait à plusieurs années de surperformance forte. Les valorisations, on ne peut pas dire qu'il y ait d'écart de valorisation, on pourra faire le point là-dessus si vous le voulez, donc ce n'est pas très surprenant. Effectivement, il y a une sous-performance de 500, 600 points pour l'euro et l'Europe entre valeurs moyennes et grandes.
On n'était pas dans le même scénario qu'en 2008, où là, on va dire, tous les marchés ont souffert, y compris celui-là, pour des questions de liquidité, a
Bah,
priori.
la liquidité, en fait, n'a pas aussi bien lors de 2008 que 2011, à l'exception de quelques journées en 2008, n'a pas tellement été un sujet, en fait. Non, en 2008, bah, je pense qu'on partait de mémoire de situation d'écart de valorisation qui devait être moindre. Effectivement, je pense qu'en 2008, vous avez raison, les valeurs moyennes n'ont pas dû nettement sous-performer par rapport aux grandes.
Donc là, on est dans un autre environnement, mais
Oui.
là, les questions donc de cycle ont pu jouer. Est-ce que, je dirais qu'on parlait de cette année 2012, parce qu'un gérant value en 2011, effectivement, il a souffert, parce que c'est pas parce que des valeurs mid-cap étaient pas chères qu'il y avait de la demande quelque
Ouais.
part.
Ouais. Bah, écoutez, dans le cas du fonds que je gère, on a souffert, certes, puisque la performance est clairement négative. Elle a quand même été plus résistante que l'indice de référence, dans la mesure où, ouais, il me semblait quand même assez clair que les marges de 2011 étaient à des niveaux historiquement records et qu'on risquait de s'exposer à la déception en 2012. Bon, alors après, il y a eu le retournement macroéconomique qu'on connaît, mais ça avait quand même incité une certaine prudence. Maintenant, pour faire un peu le point sur la valorisation, bah, si on distingue secteur par secteur, moi, j'aime bien dire qu'il y a des secteurs où la taille est un facteur clé de succès. Et donc, dans ces secteurs-là, il est assez logique que les valeurs moyennes et petites soient décotées par rapport aux grandes. Et actuellement, c'est le cas dans l'agroalimentaire, c'est le cas dans un secteur comme les logiciels, qui est plus petit, mais là, clairement, bah, quand vous avez votre logiciel, vous le vendez partout dans le monde et les coûts sont assez fixes. C'est pas le cas dans deux secteurs, il y a quelques raisons. Il y a une petite surcote des valeurs moyennes sur le pétrole, et je pense que ça tient au fait que l'exploration-production donne de meilleurs résultats chez les indépendants que chez les grands. Et de même dans le secteur pharmaceutique, où de même les molécules, on les trouve quand même plus chez les petits. Mais en dehors de ces deux contre-exemples, la hiérarchie est un peu respectée. Ce n'est pas des écarts de valorisation énormes, mais ils existent. Et après, sur des secteurs plus, je dirais, où il n'y a pas vraiment de facteurs clés de succès liés à la taille, bah, ça dépend. Si vous prenez le secteur, je vais prendre deux exemples cycliques. Dans le secteur papetier, c'est un petit secteur certes, il y a un avantage clair aux grandes valeurs qui sont plus résistantes. Par contre, étonnamment, à première vue, dans le secteur cimentier, les petites valeurs sont plus chères que les grandes. Et pourquoi? C'est parce que les grandes sont lancées dans une frénésie d'acquisition. C'est le cas de toutes les grandes, hein. Il y a pas, certaines ont fait plus que Lafarge. Les petits sont moins exposés, ont des bilans plus solides. Et donc, il y a plus de crainte du marché sur des augmentations de capital chez les grands acteurs.
Donc on va avoir une discrimination, et là, en faveur des petites dans
Et
ce cas-là.
oui, donc là, le cas échéant, il y a une petite surcote des valeurs moyennes qui est assez justifiée par toutes ces craintes qu'on a actuellement sur le crédit et le refinancement des emprunts bancaires.
Alors, on a pu aussi souhaiter, en tout cas, ou voir que ce secteur soit animé par, justement, compte tenu de ses faibles valorisations dans certains segments, par des
Enfin,
acquisitions.
faible, peut-être pas exagérer, mais raisonnable.
Raisonnable,
Ouais,
voilà. Est-ce que
ouais.
vraiment il y a eu des acquisitions qui ont pu montrer à certains investisseurs un peu frileux que finalement, il y avait de la valorisation
Ouais.
sur ce segment?
Ben écoutez, c'est amusant d'en parler parce qu'on a connu un environnement très incertain avec beaucoup d'angoisse en 2011. Et je pense que si vous faites la liste de toutes les OPA qu'il y a eu cette année-là, il y a eu à peu près systématiquement contre-offres arrivées d'un autre acquéreur et souvent des primes proposées, relevées, des luttes qui conduisaient à des niveaux très élevés. Et ça a été le cas. Alors j'ai des exemples en tête qui ne sont pas les plus connus, Charter, qui est une société anglaise qu'on avait. Mais il y a eu des exemples en France. Alors, je ne sais plus si c'est sur Delachaux, il y a eu relèvement des offres ou pas, mais enfin, il y a eu une prime très substantielle. Enfin, donc, pour répondre à votre question, oui, il y a une activité forte et avec souvent, en fait, souvent, ce n'est pas mon esprit, hein, mais souvent, ça avait même la peine de venir se placer en tant qu'investisseur à la première offre, car elle était quasi toujours suivi de relèvements ou de contre-offres. Un exemple qu'on a eu récemment, dont on a bénéficié début 2012, c'est une société hollandaise, c'est Alouavine, qui est un des grands producteurs mondiaux de tubes en plastique. C'est pas très excitant a priori, une société qui a beaucoup de dettes. Et un grand acteur mexicain est venu faire une offre et il a relevé 4 fois son offre pour qu'elle soit acceptée. Sachant que la première offre était quand même avec 100% de prime ou quasiment par rapport au prix existant. Donc oui, ça a été un environnement riche en ce sens. Et à mon avis, je pense que ça va le rester. Alors je pense qu'on va avoir une particularité qui a déjà commencé, c'est que dans ces phases de cycle économique et boursier, il est coutume que des majoritaires, que ce soit des familles ou des industriels, rachètent des filiales cotées. Et c'est le cas, ça a été beaucoup le cas début 2003, c'est le cas actuellement. Un exemple en France, ça a été Guyane et Gascogne récemment. Alors certes, la prime a été faible et discutable, mais ça illustre bien le propos. Et je pense que ça, on va en avoir un certain nombre dans les mois qui viennent.
Alors on voit du côté des perspectives 2012, peut-être des points d'interrogation justement. Après cette, une bonne année 2011, bonne année 2010, bonne année 2011, on commence à avoir des comparables peut-être pour ces sociétés aussi qui commencent à être difficiles à tenir. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que les sociétés n'ont pas de croissance ou n'auront pas de croissance en 2012, mais il y a toujours un trimestre où on commence à dire « Ah oui, on avait eu un excellent trimestre ». Donc on commence à avoir du mal après ces reprises, parce que les entreprises finalement, elles, ont connu de la reprise. Hein. Ouais. On parle souvent des dettes souveraines, mais côté entreprise, il y a eu des redressements d'entreprise, des bonnes années.
Ouais. Non, vous avez raison. Alors, d'autant plus que c'est ça qui est un peu étonnant par rapport à 2008-2009, c'est que normalement, qu'on sort de ce qu'on considère comme une récession, les marges étaient basses et il y a du potentiel d'amélioration. Là, ce n'est pas le cas. Les marges sont restées très élevées. Je pense que les attentes qu'ont les analystes de brokers, ce qu'on appelle en anglicisme le sell side, qui tapent sur une croissance des résultats assez importante, sont trop fortes. Je pense d'autre côté que beaucoup de gérants sont dans le même état d'esprit. Donc après, la question est de savoir si cette déception va être très importante ou pas. Mais c'est vrai que maintenant qu'il y a eu un petit rebond des marchés en début d'année, bah, c'est un peu du pilotage à but. Est-ce qu'il faut savoir des convictions. À mon avis, une façon d'éviter, je pense qu'il faut se mettre dans des optiques à long terme qu'on investit. À mon avis, ce qui est intéressant, c'est de jouer ce qui a été assez payant en 2009, c'est de jouer des sociétés qui vont sortir renforcées de la crise, c'est-à-dire qui auront des concurrents qui auront disparu, qu'elles auront racheté, qui auront gagné des parts de marché. Un exemple flagrant en France à l'époque, c'est Arkema. Je ne sais pas si Arkema, vous savez, l'ex-filiale chimique de Total, qui a pu faire racheter des concurrents à très bas prix. Par exemple, pour prendre des cas de mes fonds, en Angleterre, j'ai investi récemment dans une société qui s'appelle DS Smith, c'est une société anglaise de carton ondulé, et qui vient de racheter les actifs de Stora, un de ses grands concurrents, à un prix très raisonnable, et c'est une société bien gérée, donc je suis sûr qu'ils vont faire des choses bien avec ça.
En conclusion, il y aura donc peut-être des opportunités sur ce segment mid-cap.
Oui, si vous voulez, c'est l'intérêt du segment, c'est qu'il est large, mid ou small, et il a aussi la particularité que quand les choses vont mal en bourse et dans les marchés financiers, la recherche est réduite sur ces sociétés. Les sociétés, les brokers réduisent leurs effectifs et surtout sur des titres peu liquides qui rapportent peu de volume et peu de transactions. Et donc, on a des sociétés moins bien couvertes et donc le marché sera moins efficient et il y aura des opportunités. Enfin, il y en a déjà d'ailleurs, mais il y en aura encore plus.
Eh bien, c'est un message d'espoir, en tout cas, pour ceux qui doutent de la bourse. Merci d'avoir fait le point avec nous sur ce segment des mid-cap en Europe. Frédéric Redel, on rappelle que vous êtes donc gérant chez CCR Asset Management.
Merci à vous.